Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime.
Bonjour.
Et je suis aussi avec Exerve.
Salut.
Alors messieurs, eh bien on se retrouve pour un nouvel épisode. Je n'ai pas de grande annonce à vous faire, si ce n'est que, eh bien, merci à toutes les personnes qui nous soutiennent sur Patreon, qui nous ont rejoints encore ce mois-ci.
Le moment entre le bonjour et le Patreon.
Il y a des gens qui se sont plaints, que le Patreon prenait trop de place dans Fin du Game.
Une personne. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est le syndrome commentaire YouTube.
Et je voudrais vous dire, un palier existera. On ne parlera plus de Patreon, mais il est lointain encore ce palier. Donc n'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon. On remercie également Third Edition, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo.
Mais pas que.
Pas que, parce qu'ils s'intéressent aussi aux consoles de jeux vidéo.
Oh, ce qui n'a rien à voir.
Et oui, bah non, c'est totalement différent. Il y a un nouveau livre qui va sortir. Ça s'appelle « À la découverte des consoles insolites, une histoire alternative du jeu vidéo ». Et en fait, il y a un bouquin qui sort un petit peu de l'ordinaire par rapport à ce que peut faire Third d'habitude, où là, on va nous raconter en fait l'histoire de toutes ces consoles qu'on connaît pas forcément, en sortant des PlayStation, les GameCube et tous ces trucs qu'on connaît bien, mais plutôt d'autres consoles qui ont eu des destins un petit peu moins reluisants. Est-ce qu'on parlera de la Ouya dedans? Est-ce qu'on parlera de la N-Gage et de plein d'autres consoles qui ont eu des destins un peu particuliers? Et puis, un autre truc qui m'a un peu interpellé, c'est l'idée aussi qu'il y ait des consoles qui ont eu des destins bien différents selon les régions, notamment certaines consoles Sega en fait qui marchent super bien en Amérique du Sud. Alors je sais pas, j'ai pas encore le livre, donc je sais pas pourquoi ça. Est-ce que c'est parce que la législation, des trucs comme ça? Parce que je sais qu'en Amérique du Sud il y a des histoires comme ça sur les consoles.
Je crois que les consoles coûtent extrêmement cher en Amérique du Sud. J'ai pas les raisons, mais du coup potentiellement il y a peut-être des consoles de générations précédentes qui coûtent moins cher et qui sont mises à cartonner.
Oui,
je sais pas.
Que en gros quand la Play 3 ou la Play 4 sortait, ils disaient que ça cartonnait la Play 2.
Je me souviens effectivement,
du genre comme ça.
Voilà, donc un nouveau livre qui va sortir, je crois qu'il est sorti même quand vous entendrez l'épisode, donc vous pouvez retrouver ça sur le site de Third. Nous, aujourd'hui, on ne va pas parler ni de Ouya, ni de console, on va parler d'amour, simplement, puisqu'on va parler de Haven. On va lancer un petit générique, comme d'habitude. Là, c'était assez facile de choisir, parce qu'on a quand même bande-son.
Oui et non, parce que la bande-son, elle est tellement de qualité, tu vois, il y a tellement de morceaux cool que, forcément, il faut choisir, mais on se retrouve juste après.
Alors, Haven, c'est sorti le 3 décembre 2020 sur PC et Xbox, PS5, et puis c'est arrivé aussi un peu plus tard sur Switch et PS4. C'est développé et publié par The Game Bakers, un studio montpelliérain. Eh oui, la France, monsieur, la région Occitanie, tous ces trucs-là, hein, c'est bien l'Occitanie, je crois que je ne dis pas de bêtises. Oh, hein.
Depuis qu'ils ont changé le nom des régions, je suis paumé.
Ok, je ne sais pas, c'est le sud. Pour nous, c'est le sud. Donc, The Game Bakers, qui est un studio qui a été fondé par deux personnes, donc Aymeric Toa et Audrey Le Prince. Et ben, on va revenir un petit peu sur leur parcours, peut-être commencer d'abord par Aymeric, Maxime.
Eh bien oui, commençons par Aymeric. C'est assez facile de trouver son histoire parce qu'il est assez client des interviews, hein, on peut le voir assez souvent, notamment il y en avait une chez Gamekult pour InDevWiz, un format qui avait d'interview. Donc ce qu'on apprend de lui, c'est qu'il est arrivé chez Ubisoft après ses études vers 2004 à peu près, où lui il avait plutôt un background ergonomie un petit peu, il avait fait du multimédia aussi, mais là chez Ubisoft il a commencé un petit peu par observer les playtesters, toujours dans une perspective donc d'ergonomie, donc user experience, un petit peu tout ce background là ça a évolué, il a fini par devenir game design director, et donc il était dans la branche plutôt éditoriale d'Ubisoft. Alors vous en souvenez peut-être, c'est une branche dont on a potentiellement découvert l'existence il y a pas très longtemps, et pour des mauvaises raisons. Donc c'était une branche dont la tête était Serge Asquet, ou Asquet, je sais jamais comment ça se prononce. Donc le but de cette team éditoriale, c'est d'appliquer un petit peu les volontés du coup des têtes créatives, mais aux différents projets, parce que Ubisoft, bon, on rappelle, c'est une très grosse machine, c'est énormément d'employés et de projets à travers le monde, et donc il y a des personnes, donc notamment ce que faisait Aymeric Toa, qui était d'appliquer donc
une vision en fait, voilà, il y avait
puis même de la définir, c'est-à-dire qu'il y avait un double truc, c'est à la fois, tu vois, le côté trouver les règles et les faire appliquer pour qu'il y ait une espèce de cohérence
entre
les différents jeux.
De la stratégie éditoriale, c'est-à-dire de trouver une ligne directrice, une identité qui va définir ce que sont les jeux Ubisoft. Alors je ne sais pas, peut-être c'est monde ouvert, peut-être ce sont des assassins, des choses comme ça, peut-être c'est possible.
Bah, lui, il était plus à l'époque des gros jeux Tom Clancy. Je pense que c'était
plutôt sur les Tom Clancy,
ce qu'on appelle les gros, les Ghost Recon, Advance Warfighter, que j'adore. C'est une petite Madeleine de Proust. Et j'imagine peut-être du Splinter Cell ou des trucs comme ça, parce que du coup, c'est quoi Assassin's Creed? C'est 2008, 2009
2007. Hein,
2007, le premier, hein. C'est 2007. Ouais.
Donc il a déjà quelques années d'existence quand ça arrive.
Et il était donc à Ubisoft Shanghai, puisqu'il y a un gros studio là-bas. Et c'est notamment là qu'il a rencontré Audrey, donc qui est vraiment la deuxième fondatrice de The Game Bakers. Elle est rentrée chez Ubisoft directement à Shanghai. En fait, avant, elle était chez Quantic Dream. Alors à la base, elle n'a même pas une formation de jeux vidéo et tout. Elle a fait une école de commerce, elle a bossé dans le cinéma, dans l'édition papier aussi, chez Gallimard, c'est un nom qu'on connaît. Et en fait, elle a rejoint Quantic Dream parce qu'elle aimait beaucoup les jeux de rôle et elle avait envie de travailler dans le jeu vidéo. D'ailleurs, elle le raconte là, tout ce que je vous dis, en fait, c'est dans une interview qui est dans JV le Mag. Et en fait, elle raconte que sa famille avait vraiment pas compris son choix parce qu'elle est, enfin, c'est toujours vrai, les salaires dans les jeux vidéo sont beaucoup moins intéressants à poste équivalent que dans d'autres industries. Donc voilà, elle a vraiment fait ce choix de passionnée, tout simplement. Et puis, elle a rejoint Ubisoft à Shanghai parce qu'elle avait envie, elle était attirée par la Chine. Mais quelques années plus tard, elle est tombée enceinte, elle était productrice là-bas. Et forcément, quand on commence à rentrer dans cette étape de la vie, c'est plus compliqué de suivre les rythmes des studios de jeux vidéo qui sont hyper intenses. Elle se voyait pas encore faire les horaires à fond, le crunch et compagnie. Et du coup, c'est pour ça que ça a bien collé avec Aymeric. Ils avaient tous les deux envie un peu de quitter ce gros navire dans lequel ils se sentaient un petit peu moins bien et de prendre peut-être cette vague du jeu indépendant et surtout du jeu mobile.
C'est vrai que en fait, c'était vraiment le tout début. Donc 2007, on le rappelle, c'est l'iPhone. Ce petit appareil qui a un peu changé beaucoup de choses avec son App Store. Et en fait, au tout début du jeu mobile, souvenez-vous, la grande question, c'était: est-ce que le jeu mobile va pas remplacer le jeu sur portable? À l'époque, c'était la DS, le concurrent principal.
Voire même le jeu vidéo tout court.
Le jeu vidéo tout court, tu vois, ça pouvait être le nouvel Eldorado.
Est-ce que le jeu vidéo va disparaître?
Ou est-ce que Nintendo va mourir? Les questions, les marronniers, vous les connaissez. Et c'est vrai que le jeu vidéo sur mobile, et donc dans un format premium, c'est-à-dire que vous achetiez un jeu et vous y jouiez, c'était un peu le modèle qui était en train de naître à cette époque-là. Pas mal de gens s'y sont engouffrés et pensaient que ça allait être le cas. Alors bon, a posteriori, aujourd'hui, en fait, on sait que c'est le gacha et le free-to-play qui cartonnent. Mais voilà, du coup, bah, ils se sont dit, tiens, on va tenter de partir un petit peu dans cette direction.
Ouais, parce que pour préciser, donc, c'est en 2010 qui fonde The Game Makers en se disant, bon, il y a un virage à prendre sur le jeu mobile. C'est maintenant, hein, beaucoup de designers y pensent. Il y a beaucoup de studios, en fait, qui se lancent, enfin, beaucoup d'indés, de petits studios qui se lancent dans cette vague-là. Et donc, ils sortent des jeux, donc, des tacticals, qui sont Squids, il y a une licence, en fait, il y a Squids, Wild West et après Combo Crew, là, qui était plus un jeu de combat.
C'est dommage que ça soit sorti à l'époque, parce que là, maintenant, Squids, c'est le bon nom pour surfer sur la tendance. Mais bon, malheureusement, Squid Game, c'est un petit peu trop tard. Ils étaient en avance.
Du coup, comme on l'a dit, donc, c'était des jeux premium, mais comme l'étaient les jeux à cette époque-là, et puis il y a eu un shift du mobile vers le free-to-play, où là, complètement, bah, comme dit, alors pas désillusion, mais bon, on s'est rendu compte que leur prédiction ne va pas se réaliser, que le monde entier ne va pas acheter des jeux avec une Game Boy dans leur poche, que voilà, c'est un autre type de jeu qui va dominer, et bon, ils sont pas particulièrement chauds pour ce pan que prend l'industrie, et du coup ils commencent à vouloir faire de l'indé. Ils décrochent quand même un contrat pour faire un jeu Tortue Ninja, c'était pour la sortie du film de Michael Bay, un grand film, on n'a pas la note métacritique, je crois que c'est genre 30 hein, le film, donc pas ouf,
ouais, je pense, ouais, c'est,
mais,
ouais,
mais voilà, donc ils font ça, ça leur prend à peu près 6 mois, comme ça ils gagnent de l'argent et surtout du temps, enfin les deux vont ensemble, mais pour commencer à plancher un petit peu sur
Fury.
Car
le temps, c'est de l'argent.
Et oui, j'ai mis de la coke dans le sablier. Pardon. Booba.
Okay. Et du coup, bah, voilà, ils vont lancer Fury.
Ouais, Fury, donc effectivement, gros changement de direction. Donc après le mobile, vraiment se lancer, bah, voilà, le jeu indé, là, à cette époque-là, on est en 2014-2015, c'est à peu près ça, Max, parce que Fury, ça sort en 2016.
Ouais,
c'est
dans ce genre-là.
Donc là, le jeu indé, voilà, on a eu des grosses vagues, hein, vous connaissez l'émission, y a eu quand même beaucoup de succès, donc ils essaient de se positionner là-dessus. Et notamment, Emric, il tenait un blog à l'époque, et ce blog, on peut le retrouver sur, alors, anciennement Gamasutra, maintenant c'est Game Developer, où il racontait justement qu'il avait cette vision de se dire, bah voilà, les indés, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir exister sur le marché? Bah, on essaie de se poser en opposition au AAA qui essaie d'être bon partout. Bon, là, vraiment, on pense à Ubisoft, forcément, les Assassin's Creed qui essayaient d'être à la fois grand, action, exploration, qui essayaient un petit peu de tout faire. Mm-hmm. Lui, il s'est dit, bah moi, on va essayer de faire un jeu qui va juste dans une direction, un jeu beaucoup plus radical, mais en même temps, on va quand même mettre des moyens de production assez importants pour faire quelque chose qui soit quand même assez bien fini. Et c'est à cette époque-là qu'on parlait un peu des triple I, et Fury va vraiment s'intégrer là-dedans. Fury, c'était un jeu vraiment...
C'est un boss rush, c'est vraiment un jeu, voilà, jeu avec une grosse ADN à la japonaise, hein. Ça peut faire penser de loin à du Devil May Cry, des choses comme ça, parce qu'on a vraiment des combats extrêmement nerveux. Il y a aussi une couche de shoot'em up, hein, parce que les ennemis ont tendance à nous envoyer des gros patterns de boulettes dans lesquels il faut se faufiler et esquiver. Le tout avec une musique... vraiment, enfin voilà, la bande son de Fury, je pense que ça fait partie des choses qui ont vraiment contribué à son succès, en plus de bon. Même en termes de visuel, c'était assez marqué le style. On peut citer justement le chara-designer de Fury, qui était donc Takashi Okazaki, c'est l'auteur de Afro Samurai. Donc ça, c'est vrai qu'en termes de dessin, voilà, ça a apporté un truc en plus, ça a apporté ce côté peut-être un peu, c'est cette patte du c'est bon, c'est du japonais. Et c'est vrai que bon, quand on y joue, quand on a l'habitude un peu des jeux à la Jap, justement, en termes d'exigence, de gameplay, de sensations manette en main, ce qu'on appelle le game feel, c'est quelque chose de très pointu, et je trouve que ça colle bien à ce que tu disais sur le côté, ben, ils ont fait un truc, c'est le combat, et ils y sont allés à fond. C'est-à-dire que le reste, il n'y a pas d'open world ou quoi, hein. Il y a juste des moments où il marche entre deux niveaux.
Ouais, c'est ça, il se balade 2-3 minutes où il y a un mec avec la tête de lapin là,
voilà, qui
parle,
raconte son histoire. Mais le gros du jeu, c'est les combats, quoi.
Et pour en revenir un petit peu à cette philosophie du coup japonaise, comme tu le disais, c'est beaucoup le gameplay nerveux, tu vois, c'est ça. Et qu'est-ce qui est nerveux, du coup, c'est donc des contrôles réactifs. Et ça, c'était Emric Toa qui le disait. Aussi, des choses, il n'hésite pas à faire des concessions sur l'animation si c'est pour que ton perso réagisse, c'est-à-dire accélérer l'animation, voire carrément l'interrompre. Si c'est bien pour faire ton coup au moment où t'as appuyé, ce qui est du coup un petit peu aux antipodes de ce que va faire un Ubisoft, c'est pas un défaut, c'est deux philosophies différentes, où là on est plus, alors Ubisoft ou globalement les AAA occidentaux.
Là l'exemple idéal pour moi c'est Red Dead 2, tu vois, avec le côté, plutôt que de faire une animation, on va simuler l'ouverture de la porte, on va regarder la boîte de petits pois et ainsi de suite, que bon, bah, c'est vrai que c'est ça, les animations, peut y avoir des cuts complets pour que justement il y ait juste une pause, et si la pause elle est stylé et que ça rend bien manette en main, bah, c'est plus intéressant qu'une animation
et
très léchée.
En fait, que l'action voilà, prenne vraiment le pas sur le spectacle et qu'on puisse cutter comme ça les animations, ce qu'on ne verrait pas dans ce qu'on ne voyait pas dans un Assassin's Creed ou dans Batman Arkham, par exemple, je pense aussi à ces jeux-là.
Tout en gardant, tu vois, une intention de lisibilité, parce qu'il faut que ça reste assez lisible. C'est un jeu qui est assez difficile en lui-même. Il y a quand même pas mal de niveaux de difficulté, mais bon, si on veut y jouer en mode un peu bourrin, il y a tellement de trucs à l'écran, il faut avoir des bons réflexes. Donc il faut que ça reste en plus lisible. Donc c'est vrai que de travailler des animations comme ça, très saccadées, bah, ça fonctionne bien. Et c'est ça un petit peu aussi qui donne cet ADN comme ça, voilà, très Jap.
Et Fury, donc, bah, qui marche bien quand même à l'époque. Hein, déjà succès d'estime, le jeu avait fait pas mal parler de lui et en bien à l'époque, malgré sa difficulté. Un petit débat sur la difficulté ?
Non, non, ça va aller, je te remercie.
Merci. Et donc, et puis aussi, même en termes de vente, ça s'était quand même bien passé pour Fury. Donc voilà, un vrai succès quand même pour cette première, pour cette tentative comme ça de rentrer sur le marché indé et qui a vraiment placé, comme on dit, placé de Game Baker sur la map des fabricants de jeux indés comme ça avec une identité assez marquée. Et pourtant, eh ben, le jeu d'après, complètement twist, ils vont partir sur un jeu vraiment totalement différent qui deviendra Haven. Alors, t'avais revu les interviews et en fait, on sent que c'était déjà quelque chose qui le titillait.
Bah, c'est l'interview, donc toujours celle de Gamecult, il y en a d'autres, hein, mais là on continue sur celle-là. C'était donc avant la sortie de Fury et déjà il parlait de son amour pour les dating sims. Alors en mode péché mignon quand même, tu vois, il y a un petit côté, il dit oui, bon, voilà, il y a quand même des différences culturelles hein, entre une histoire d'amour japonaise et une histoire d'amour française. Notamment au niveau de la pudeur et de l'aboutissement des relations, on va dire. Mais voilà, il adore ça quand même. Il considère qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Il aime beaucoup quand même le côté social des Persona ou Catherine. Mais voilà, c'est intéressant. Il en parle avant la sortie de Fury. Il confesse déjà ça. Et bon, bah, Even, voilà, c'est un jeu quand même de relations sociales, quoi. Même d'amour.
Et du coup, ils vont partir vraiment dans cette direction. Je pense que ça va être un petit peu le fil vraiment de la construction de ce jeu. Du coup, à la base, c'est un point and click, c'est ça ?
Bah, pas à la base, non, c'est qu'à la base, ils voulaient quand même le côté action-aventure, mais pendant la prod, avec des prévisions budgétaires, hein, normal, quand on prévoit sur plusieurs années, ils se disent qu'ils n'auront peut-être pas suffisamment d'argent pour conclure ça. Je pense qu'ils avaient. Le contexte, ça me fait comprendre que j'ai l'impression qu'ils avaient déjà commencé à bosser dessus, ils se sont rendus compte qu'ils ne pourraient pas l'intégrer au bout, en tout cas le peaufiner, et du coup, oui, c'était. Le projet est devenu plutôt un truc qui ressemblait un peu à une technique sans vraiment de mécanique d'action ou d'aventure. Quoi.
Et là, du coup, on peut revenir un petit peu sur Fury, parce que comme pas mal de jeux en réalité, ben c'est plutôt un jeu qui s'est vendu sur la durée et en plus bon ben il y a dû avoir j'imagine tout un tas de deals. Je crois qu'il a été, il était dans le PS Plus même à une époque. Enfin,
Je crois que même il me semblait qu'il était sorti
sur
parce
le
que
PS
moi,
Plus.
Justement, j'y ai joué, je me souviens et j'avais pu le télécharger. Je pense qu'il était offert sur le PS Plus, donc il y avait déjà un deal comme ça. Et après, il a quand même continué en fait, même à la surprise de The Game Makers, il a continué vraiment à se vendre sur la durée et du coup ça a permis de réinjecter comme ça un peu de budget dans le développement de Haven.
On le rappelle, le but d'un studio de jeux vidéo, c'est pas juste de faire un seul jeu. Non, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont plutôt dans une logique one shot, mais on peut parfois avoir un budget prévisionnel et puis ils se disent, on fait ce jeu, un petit peu coup de cœur qu'on a envie de faire, qui aurait pu être Haven, et derrière, ils auraient encore des sous pour faire autre chose, parce que si jamais ce jeu-là plantait, il faut pas risquer leur carrière et même l'existence de la boîte juste sur un jeu, quoi.
Et du coup, voilà, Haven qui va reprendre vraiment du budget, donc ils vont limite le rebooter, c'est une sorte de soft reboot qui se mettent à faire, et vraiment il y a 2 ans ensuite de développement qui vont déboucher. Un autre truc qu'on a pu apprendre, c'est que le jeu, ils l'ont trouvé assez difficile à marketer. Encore une fois, Haven, c'est un jeu, on va y venir après, évidemment, quand on va décortiquer un peu le jeu, mais en voyant les visuels et tout, je pense que c'était assez difficile de vraiment comprendre qu'est-ce que c'était que Haven. Et ça, ils le racontent, ils en étaient même assez conscients de se rendre compte que quand on fait un jeu qui est un tout petit peu différent, qui correspond pas forcément à des cases qu'on connaît bien, qui est bien identifié, et bon, moi je dirais encore plus quand on est dans le cas d'un Game Bakers qui a fait un Fury juste avant, où c'était du bullet hell, des trucs comme ça, donc très très action. Là, on les voit changer complètement de recette. Ça a été difficile pour eux de mettre le jeu en avant.
Et ce qui est intéressant, c'est que comme il n'y avait pas vraiment de concurrents sur ce créneau, en fait, pas de concurrents, on peut se dire c'est un avantage, il y a tout un terrain défriché et tout, certes, mais c'est aussi compliqué du coup de se placer dans l'esprit des gens, parce que le meilleur cas de figure, en fait, il y a un bon point entre pas de concurrence et trop de concurrence, c'est de se dire, on a des concurrents bien identifiés, que les gens aiment bien, et ils en veulent plus, tu vois, comme ça c'est très simple, tu te places et tu dis, nous on fait comme ce jeu, vous voulez y jouer, ça tombe bien, on arrive, tu vois.
Et là, Dark Souls.
Ah oui, ça
voilà. Non, mais parce que justement, oui, tu bah, vois, oui, ça colle oui, bien oui, le ouais. côté on ouais. fait à la Dark Souls. Pendant longtemps, c'était l'argument marketing le plus facile du monde, quoi.
Et du coup, bah là, pas de concurrent. En fait, tu peux pas dire on est comme ce jeu, on est ouais. comme ce jeu. Et bon, on va revenir plus tard, mais ce qui fait la différence d'Even, donc c'est cette relation de couple. Et c'est pas non plus une mécanique identifiable ou un truc vraiment ouais. Que tu vas pouvoir voir en trailer, contrairement à Fury, où là, on dit bon, boss rush, voilà, il y a un peu de shmup, il ouais, y a un ouais. peu de combat. Bon, tu comprends
assez tout de suite voilà. quoi tu vas jouer concrètement. Ouais. Alors que Even, bon, à part, ouais, je sais pas, je pense à Ico, éventuellement, la relation avec Urda où on se tenait la main, mais c'est tout, il ouais. n'y a pas vraiment beaucoup de ouais, jeux qui intègrent ce type-là.
Et c'est justement sur ça qu'ils vont partir en termes de marketing, où ils vont se dire qu'ils vont mettre en avant le fait que c'est un jeu où on joue un couple, mm-hmm. qui est non pas dans la phase de rencontre-séduction, qui est un peu le truc qu'on voit habituellement, mais ils sont ensemble. Ouais. Et ça, bah, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, ou quasiment pas, dans les jeux vidéo, c'est relativement rare. On avait en exemple, nous, éventuellement dans Uncharted 4, voilà, tu vois, mais c'est des petites séquences dans The Last of Us 2, mais c'est plus en. Voilà, c'est pas le
c'est
sujet central.
C'est un petit
quoi.
Fond narratif ouais. derrière, un petit arc comme ça, mais ouais, c'est pas du tout pareil.
Et c'est vrai que le jeu vidéo, à l'époque où Even commence à faire parler de lui, il est un petit peu en train de se remettre en question. Tu vois, c'est toujours les époques de MeToo, du Gamergate, il y a tout ouais. un tas de choses qui sont en train d'évoluer dans la façon de représenter les choses. Et la question d'un couple, tu vois, bêtement, c'est vrai qu'on se dit, ah bah oui, c'est vrai que dans un jeu vidéo, les gens, ils sont pas ensemble. Tu vois, genre, ils tombent amoureux et à la fin, éventuellement, après les crédits, tu vois, ils ouais. font un tout petit bisou, mais c'est tout. Et, mais parce que j'ai plein d'exemples, c'est de JRP. Où genre il y a l'histoire qui dure pendant 80 heures, ils sont tous amoureux et à la ouais. toute fin ils se tiennent la main, tu vois, c'est genre waouh.
Bah, on va avoir de toute façon l'occasion d'en reparler un petit peu sur cette histoire d'amour, comment elle se transmet par rapport aux autres jeux, mais du coup pour revenir un petit peu à la communication et tout, moi ça m'avait vachement hypé, alors pas forcément le jeu en lui-même, mais le fait que ce soit le studio qui a fait Fury, qui l'a fait une histoire avec un couple, et je me disais ouais c'est bon, j'ai vraiment envie de savoir ce que va donner le virage à 180 quoi par rapport à, et c'est pas pour leur taper dessus, mais bon chez les indés, tu peux voir, bon, t'as Darkest Dungeon 2, Risk of Rain 2, Inside, bon, c'est un peu Limbo plus, ouais, tu vois, il y a des choses, t'es un peu à la maison, où il y avait Silksong, tu vois, on avait déjà les trailers, l'idée de ce que serait Silksong, je pense, quand Even est sorti, en tout cas. Ouais. Bon, voilà, alors que Even, là, tu sais pas à quoi t'attendre, quoi.
Oui, c'est très intéressant, et en même temps, bah, c'est aussi une réalité, c'est-à-dire que pour pas mal de développeurs indés, la peur de la suite, c'est un truc qui est très réel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ? Une fois qu'on a fait Hotline Miami, qu'est-ce qu'on fait ? Tu vois, c'est Hotline ouais. Miami. Ouais. Deux. Et puis bah, finalement aujourd'hui Nenaton on n'en entend plus jamais parler parce que bah, ils font autre chose quoi.
Ouais c'est vrai, non mais c'est vrai qu'on a tendance à surtout mettre sur le côté du AAA, voilà, l'exploitation, les suites, c'est toujours la même chose, mais en fait bah, malgré tout en fait ce marché il est tellement difficile que mm-hmm. bah, quand t'as construit quelque chose, que les gens te connaissent pour ça et que bah, tu veux continuer, ouais c'est ouais. ça, il faut, c'est difficile non plus de faire un gros virage comme ça, et en tout cas bah, voilà, c'est ce que va faire Haven, et on va en parler après. Alors le jeu sort, le Metacritic est pas ouf, voilà, on est à 73, donc pour, on est dans le orange là.
Jaune.
Jaune, enfin, de toute façon, il n'y a pas
de orange. C'est à partir de 75 que c'est vert, c'est ça ? Je sais plus.
C'est pas 80 maintenant.
C'est même 80,
ouais.
C'est 79. Bref, bah, c'est la moyenne. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas un mauvais jeu, c'est pas un grand jeu non plus. Mais
qui
vous
divise
le savez,
en fait.
C'est ça.
Pas,
c'est-à-dire qu'au niveau de la réception par la presse, c'est un jeu qui va plaire à certains, ou les autres vont dire oui, sans plus. Et donc, c'est mitigé. Voilà, c'est des avis qui sont mitigés. En termes de vente, on peut pas trop savoir, puisque le jeu, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché, il a beaucoup évolué, il est dans le Game Pass. Donc
ouais,
du coup,
il est arrivé très vite même dans le ouais. Game Pass, hein, j'imagine. Je sais pas s'il est, je me souviens plus, j'ai pas vérifié s'il est sorti Day One sur le Game Pass, mais je pense pas.
Peut-être, bon, ça dans le doute, ouais. Voilà. C'est pas forcément ce qui est le plus important, c'est que ben, aujourd'hui, les jeux peuvent faire partie de bundle, peut-être un jour il sera offert, on sait pas, tu vois, sur le PS Plus, sur les Epic, enfin, il y a plein de possibilités.
Et il peut se vendre encore
et
en plus.
Il peut continuer,
le...
en fait, voilà, de se vendre sur la durée. Le fait est que le jeu a quand même été reconnu au Pégase, puisque du coup, on a cette petite fierté français.
Ah bah écoutez, voilà, nous sommes à la maison aujourd'hui.
Oui, c'est un peu ça. Donc bon, les Pégases, si vous connaissez pas, c'est la cérémonie donc qui a pour objectif d'être un peu les Césars mais version jeu vidéo, donc de célébrer le jeu vidéo français pour le coup, puisque c'est vraiment essentiellement, il y a des prix pour les jeux étrangers, mais c'est quand même globalement des jeux français, on en est à deux ou trois éditions, non ça doit être la deuxième, mais bon en même temps vous savez, il y a eu ce truc qui est le Covid,
il s'est passé un truc effectivement,
donc forcément ça n'a pas encore pris toute son ampleur.
Mais du coup meilleur jeu indé et meilleur personnage, c'est ça. Et il y avait eu 6 nominations, donc quand même, bon, voilà, un beau succès. Bon, après, voilà, en France, il n'y a pas non plus un milliard de jeux. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'encore une fois, des jeux qui se positionnent un petit peu comme le font les Game Bakers, c'est-à-dire que c'est pas non plus du tout petit indé, c'est quand même un jeu, voilà, il y a un studio derrière, etc. C'est comme un. Bon, Asobo, c'est beaucoup plus gros maintenant aujourd'hui, donc je vais peut-être pas les comparer. Mais bref, il n'y en a pas tant que ça, finalement, des gros studios en France de cette envergure.
Non, il y en a, mais on rappelle aussi qu'il faut payer quand même pour pouvoir être nominé au Pégase. Donc
je fais le A très très fort de Denis Brognard, mais je respecte
ça. Ça peut être un frein pour beaucoup de petits studios aussi, quoi.
Et payer à chaque nomination, du coup, évidemment.
Ah oui, en plus, c'est comme ça.
Je crois que c'est à chaque catégorie.
Catégorie où tu veux être, je crois que c'est 500
balles. Et tu peux être dans des catégories où t'as rien à foutre là.
Je sais pas.
Best jeu multijoueur en ligne, best ongoing game.
Non, je crois. Alors, ça pour le coup, c'est un truc qu'ils ont qui est pas mal, c'est qu'ils ont pas encore des catégories à la con façon Game Awards.
Ah, ils ont des catégories à la con dans
le Game Awards. Bah oui, les Fresh Indie Game by Subway. Enfin, tu m'excuseras, c'est un peu du foutage de gueule, quoi.
Ah bah, il faut bien croûter.
Ah bah, alors, oui, Geoff Chilly.
Je ne parlerai pas mal de Subway.
Attendez, non, parce qu'il faut donner.
C'est le lore, vas-y.
Il faut donner les bails. C'est que, voilà, autant cette table, il y a un amateur de cette marque-là, de sandwich.
Un aficionado, c'est vraiment.
Un grand connaisseur. Oui, oui. Si
un
vous
gourmet.
Voulez faire classique.
Fin du game at podcast@gmail.com.
Si vous voulez, Subway, si vous voulez financer Fin du game, il y a peut-être moyen. Voilà, on peut s'arranger. Bon, très bien. Après cette belle transparence qu'il y a au sein de cette émission, on va revenir sur l'histoire de Haven. Et juste après que Benoît reprenne ses esprits, je te laisse embrayer, vas-y.
Et ben du coup, pas de sandwich, hein, c'est pas l'histoire. Donc Haven, c'est un jeu de science-fiction, ça se passe dans une galaxie très très lointaine, on va dire. Il y a une planète qui s'appelle La Ruche, c'est une espèce de société un petit peu totalitaire, étrange. Il y a une IA en fait qui décide à la place des gens avec qui ils vont vivre. C'est en fait une IA qui décide, bah, toi tu vas être avec toi tu vas vivre avec telle personne. Et l'idée, c'est pas tant de chercher à faire des relations amoureuses que plutôt des relations stables. Ça, c'est vraiment au fond. C'est-à-dire que c'est pas forcément énormément abordé dans le jeu, mais on sent qu'il y a cette idée derrière de, il y a une société qui a essayé de régler les conflits, pas de divorce, et donc comme ça les gens ils sont très productifs. C'est pour ça que c'est les ruches, les petites abeilles, vous voyez. Le capitalisme, tout ça. Au milieu de tout ça, il y a You et Kay, ou Kay et You, ce que vous voulez, qui sont donc deux jeunes gens qui vont tomber amoureux. Ils se sont rencontrés un peu par hasard parce qu'ils n'étaient pas forcément dans les mêmes sphères sociales, etc. Et ils sont tellement tombés amoureux que rapidement, en fait, ils décident de refuser le destin qui va leur être imposé par l'IA. Et ils se cassent. En fait, You. Ouais. You, c'est la fille ?
Oui, tout à fait.
Oui. J'ai toujours un doute. Elle est mécano et elle a un plan pour se barrer avec un vaisseau qui s'appelle le Nid. Et donc, ils se barrent et ils vont sur le long de ce qu'ils appellent le flow ou le flux, je crois, en français. Ouais. En gros, il y a une espèce de petit flux interdimensionnel, un peu
d'énergie
intergalactique.
Qui relie les planètes.
C'est l'autoroute de l'espace. Voilà.
Voilà,
tu vois,
c'est vraiment
Galaxy
l'autoroute
Express.
De l'espace. Voilà.
Et ils arrivent sur une autre planète à un moment, puisqu'ils ils s'enfuient complètement. Ça s'appelle Source. Cette planète-là, en fait, ils se posent dessus parce qu'ils ont une petite avarie et ils sont obligés d'y rester.
Et juste pour info, nous, c'est quand on commence.
C'est
le
à ce moment-là
jeu,
qu'on
voilà.
commence. Voilà.
Ils viennent d'atterrir un
c'est
peu
ça.
En catastrophe même.
Oui, oui
sur,
parce qu'ils ont, voilà, ils ont des trucs à réparer, ils ont des petites avaries. La planète, en plus, elle est dans un état bizarre parce qu'il y a toute la croûte en fait qui a explosé. Donc il y a plein de petits îlots un peu partout et c'est ça qu'on va visiter dans le jeu. Et donc là, leur objectif sur place, ça va être de faire un peu leur quotidien parce que le gros du jeu, c'est ça en fait. Si on va suivre leurs aventures sur cette planète, ils vont réparer le vaisseau, ils vont découvrir la faune locale, ils vont essayer d'améliorer un petit peu leur menu parce que les Apple Dew, au bout d'un moment, ils en ont marre.
Oui,
ils
au début, alors c'est une espèce de pomme assez
pommiers enfoncés,
voilà. Un peu Pokémonesque, n'est-ce pas?
Voilà, tout à fait.
Puis qu'on peut préparer, donc. Ouais.
Et donc ils vont visiter tout ça, ils vont découvrir aussi qu'il y a des ruines, donc ils vont se rendre compte que c'est une planète qui était déjà colonisée par la civilisation de la ruche. Il y a même d'ailleurs des petits indices qui nous feraient comprendre que You vient de cette planète-là, ou ses parents, ou sa famille.
C'est Kay,
qui viendrait de cette planète-là. Et donc ça, c'est un peu toutes les petites histoires qui vont se passer, parce que vraiment, c'est le quotidien de ce couple-là qu'on va vivre. Mais il y a quand même un fil rouge derrière qui est la ruche risque de les retrouver un jour ou l'autre. Et donc, assez rapidement, va y avoir des...
Ils activent... En fait, on active une espèce de signal, tout simplement.
C'est ça. Alors,
je sais plus trop pourquoi. Est-ce que c'est pour capter de l'énergie ou je ne sais pas. Bref, ils utilisent la 4G, ils se font repérer, parce que Google, bim, elle te trace direct.
Évidemment.
Et du coup, en fait, ils se font retrouver trouver. Alors, en fait, je crois qu'il communique avec la mère de You.
C'est voilà, ça, qui essaye qui de est, discuter avec elle pour lui dire,
parce
bah, qu'elle
est bien
nous,
placée dans le, ouais, dans le business ruche et compagnie, gouvernement.
Elle pourrait faire en sorte que voilà, sa fille ne finisse pas trop en prison, ouais, pas trop lobotomisée.
Voilà, exactement.
Si elle s'excuse, une petite tape sur les doigts et ça passe, tu vois.
Exactement.
C'est comme les anciens présidents dont les enfants vont voler les, oui, les scooters, hein, tout ça. Donc voilà.
Très bien.
et donc, bon, bah, la discussion tourne au vinaigre. You, elle décide, non, je suis amoureuse de Kay, on va rester ensemble, etc. Il y a également son promis à elle, donc j'ai oublié le nom là.
Je crois que c'est Ozias.
Ozias, quelque chose qui lui aussi rentre un petit peu dans la discussion, qui pourrait être le grand méchant du jeu. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, pas du tout, c'est pas un connard. Il est, tu vois, il est pas très sympa, mais
Maxime,
il aurait pu être beaucoup plus, tu vois, cliché, je trouve, ce perso.
Oui, oui, ça, je suis d'accord. Il le présente quand même, elle dit que c'est un psychopathe, tu vois, ouais, c'est un peu le premier, un des premiers contacts que tu as avec lui indirect. Et quand tu le vois parler, en fait, au début, il paraît un petit peu. Comment
nuancé,
dire,
voilà, non,
il dit, voilà, il dit, écoute, on va quand même essayer, c'est l'IA, il faut qu'on soit ensemble. Après, si jamais on s'entend pas très bien, tu pourras voir Kay de temps en temps. Donc, sur le coup, tu dis, ah oui, ok, c'est effectivement, c'est pas le mec hyper violent, possessif, mais il dit quand même, mais bon, si tu refuses, on va te recalibrer. Le recalibrage étant, donc, tu l'avais mentionné, l'espèce de lobotomisation où on reset un peu la personne. Et
c'est
bon,
sûr, ça, c'est vraiment une lobotomie. Il dit ça dans le jeu.
Non, non, bah,
moi,
ils
je
appellent ça le recalibrage.
Tu vois, il y a une petite loupe.
Oui, bah voilà, bon. C'est un peu moins intrusif, mais
c'est
bon,
moins intrusif, voilà.
Ouais, on te change l'esprit quand même. Hein.
Donc bon, pas mal méchant quand même quand c'est ce genre de menace.
Après, le compromis est sympa, tu vois. Enfin, quand même, tu
ouais,
vois.
Mais c'est quand même,
bon,
ouais, mais c'est quand même la forcer
oui,
à faire ça
oui,
en
vrai,
premier lieu,
bon,
tu vois.
Voilà,
donc bon.
Écoute, c'est vrai qu'il est pas très sympa.
Et donc, à partir de là, bah, lui, en fait, le Ozias, il décide d'envoyer, de venir même carrément sur place. Il y a même d'autres robots qui sont les
qui
en net,
les
guêpes qui arrivent et qui vont du coup commencer à foutre un peu la merde. Donc, ce qu'ils décident, les deux là, c'est de couper complètement le flux qui relie la planète au reste de l'autoroute
voilà,
quoi, tout simplement, afin de s'isoler et de pouvoir de se barrer. Ouais, c'est ça en fait, hein, ouais, c'est un peu ça. Et la fin du jeu, bah, ça va être ça en fait. Ils vont parvenir à briser le flux et ils se retrouvent tous les deux dans l'espace. À... Bah, en fait, ils sont complètement isolés. Mais bon, il y a aussi voilà, petite péripétie. Il y en a un des deux en fait, qui, en fonction des actions que vous allez faire, il y en a un des deux qui va être un peu touché par
corrompu,
une espèce de truc qui s'appelle la rouille, c'est vrai que j'ai oublié
ouais,
de le dire, il y a une espèce de matière étrange, bon voilà, il y a beaucoup de petites choses qui se mélangent, le fait est qu'à la toute fin, et ben voilà, ils arrivent quand même à se séparer, à se séparer du reste du monde, ils restent ensemble mais ils se séparent du reste de l'univers, et on peut se demander si c'est vraiment un happy ending ou pas, n'est-ce
alors,
pas Hugo
parce que nous on disait voilà ils finissent ensemble histoire d'amour et tout et puis on n'avait pas vu les grosses gouttes de sueur sur le front
d'Hugo. La préparation voilà elle a toujours sur le côté transparence il faut le dire Hugo n'est pas d'accord avec ce, avec
non,
ce choix.
En plus là j'ai l'impression d'être au tribunal. Alors messieurs les jurys écoutez-moi. Non mais parce que en fait moi je m'inquiète pour ces jeunes gens voilà je m'inquiète pour leur avenir de ce coup parce que bon c'est bien beau de se dire on se coupe du monde voilà tant que je t'ai tout ira bien je serai heureux voilà moi je m'inquiète quand on me dit ça. J'ai envie de dire, écoutez les jeunes, l'amour ce n'est pas ça, c'est beaucoup plus compliqué. L'amour c'est avant tout un partenariat financier. Non, c'est pas vrai, mais disons qu'il y a en fait la promesse de ce truc qui est de dire qu'ils vont vraiment tout faire pour fuir, pour sauver leur amour. Il y a un côté un petit peu naïf, on va dire, dans ce truc-là, de dire, bah voilà, c'est tant que je suis avec toi, ça va bien aller et tout. Et disons que c'est une vision de l'amour qui correspond plus vraiment au rêve que je, enfin à ma vision que j'ai de l'amour, tu vois.
Ouais,
j'ai 30 ans.
Il y a un côté très romantique, hein, très
voilà,
clairement.
Il y a un côté très
que,
romantique.
Vois, on peut,
voilà.
On peut repenser évidemment à la relation entre Roméo et Juliette oui, qui va ouais, terminer vraiment en tragédie, etc. Où il y a cette idée d'une relation amoureuse qui est plus forte que tout
ouais,
le reste.
C'est ça,
et ça, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, même encore aujourd'hui, et encore moins dans les jeux vidéo. Donc c'est vrai que ça m'avait plu en fait cette idée-là de se dire que ben leur objectif c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait je me suis pas posé la question de qu'est-ce qu'ils vont faire après, parce que
ouais,
c'est sûr que tu te dis, c'est sûr que si tu commences à réfléchir en mode bah ils sont tous les deux dans l'espace
ouais,
et c'est tout
ouais, c'est ça, ouais.
Il n'y a plus personne avec eux, enfin t'es là genre bon c'est un peu Robinson Crusoe quoi, tu vois, c'est un peu l'angoisse,
c'est un happy ending par rapport à d'autres histoires d'amour mais qui sont finalement des drames hein. Tu vois, c'est un peu la différence entre la comédie romantique où c'est toujours un happy ending et le Roméo et Juliette où finalement l'amour n'a pas en fait, étaient plus forts que ça, mais ils ont été rattrapés par le système.
Voilà.
Et du coup, ils font quoi? Ils se suicident.
Voilà.
Et t'as d'autres histoires dramatiques comme ça, où finalement, c'est
on
la...
On a spoilé Roméo et Juliette.
Eh oui.
Excusez-nous. Mais donc, bienvenue dans Fin du théâtre.
Si ça avait été autre chose, ils se seraient suicidés, ou ils se seraient fait lobotomiser, ou quoi. Donc là, il y a quand même
a
le côté
fin,
l'amour
comme
gagne.
Ça. On peut se faire choper.
Ah bon
si on... Ouais, en fait,
ah
si
ouais
on part pas suffisamment tôt du truc, si on attend trop longtemps, en fait, au bout d'un moment, ça, j'en avais parlé avec Pierre Corbinet, donc, qui est l'auteur ouais, du jeu. Il y a une scènes où on les voit qui se font choper et ça, c'est la bad ending.
Ouais, d'accord. Comme quoi, hein. Heureusement que l'un est vraiment allé au bout du jeu. Non, tout simplement, ouais, c'est vraiment juste que cette vision de l'amour un peu naïf, c'est vrai que, en fait, j'ai du mal à m'engager dedans parce que c'est quelque chose auquel, bah, qui correspond plus à ce que l'amour auquel je crois, tu vois, pour moi, c'est plus vraiment un truc comme ça, romantique. Bon, ça va bien 5 minutes quand t'as 20 ans, mais c'est fini. Bref, et ouais, c'est ça qui a fait que, bah, moi, j'ai un petit peu moins. J'ai moins adhéré aux enjeux comme ça du truc, et c'est pour ça que sur la durée j'ai eu du mal à vraiment les suivre, alors que à l'inverse justement il y a une autre partie du jeu qui est vraiment beaucoup plus dans les petits détails dans cette relation, et là par contre ça je trouve que ça fonctionne bien mieux.
C'est ça, et justement en fait si on s'est permis comme ça de faire une petite parenthèse avec ce qu'on a pensé nous, c'est parce que on retrouve cette idée de choix très radicaux, c'est-à-dire que là vraiment c'est ça, hein, les deux jeunes ils font un choix qui est radical, c'est ils se coupent du reste de l'univers et le studio du coup raconte leur histoire, et c'est vrai que c'est pas forcément le genre de choses auxquelles on pourrait s'attendre. C'est vrai qu'on est plus habitué à des structures amoureuses où à la fin, bah, peut-être qu'ils auraient sauvé la société, tu vois, ils auraient peut-être
ils seraient retournés
sur la ruche, c'est genre avec des guns blazing,
et tout. Trinity et Neo, tu vois, comme ça.
Ils détruisent la ruche et tout le monde est libéré, tout le monde divorce, etc.
C'est vrai que, si... mais c'est vrai, tu vois, j'ai vraiment réfléchi en me disant, bon, bah, comment je l'aurais vu comme ça, je me dis, bah, ils retournent, ça, ils peuvent essayer de se reprogrammer ou, tu sais, de hacker la ruche pour que justement ils soient ensemble. Enfin, tu vois, il y a plein de pistes. En tout cas, moi, la piste, genre, on se tire et on se coupe du monde complètement, j'étais, c'est vraiment ça la best solution, il n'y a pas moyen de peut-être éventuellement, donc c'est vrai, c'est juste ça, cette promesse là à laquelle j'ai moins adhéré, mais voilà, on va pas terminer
mais ce qu'on s'était dit qui était intéressant, c'est que bon, t'as cette colonne vertébrale qui est assez, on l'a dit, entre guillemets classique, voilà, histoire d'amour, voilà, l'amour ou rien, mais nous, tu vois, avec Benoît, il y avait ce côté, donc les détails intimistes qu'on a bien aimé, toi aussi d'ailleurs, Hugo, on a dit, c'était, tu vois, il y avait des petits détails, on les a notés, autant le dire, tu vois, les trucs, je sais pas, t'as une anecdote avec les cheveux sous la douche,
il y a tout le passage de la plage où tous les deux ils se font vraiment un petit break ensemble, c'est super sympa.
Il y a des moments, des dialogues, ça va picoler ensemble. Voilà, il y a le truc un peu intimiste et c'est normal parce que le jeu il est assez long, donc ça peut pas être spectaculaire comme un film d'une heure et demie, deux heures. Mais toi, Hugo, tu disais quoi, t'as trouvé que c'était un peu contradictoire justement avec ce côté réaliste, intimiste, tu le sentais comme contradictoire avec le côté romantique finalement. Ouais. Alors que nous, avec Benoît, on était un peu, bon, le côté romantique, on l'admet et on le questionne pas, et du coup, l'intimiste ça va juste apporter quelque chose avec le milieu, et de toute façon la fin on l'avait déjà accepté en mode il y aura un happy ending quoi.
Non, mais c'est exactement ça, mais c'est vrai qu'il y a tous ces petits moments de jeu où on est avec eux, et vraiment le jeu fait vraiment le choix de nous mettre dans un moment to moment, c'est-à-dire vraiment des moments d'intimité qui sont, bah, vraiment une conversation un peu lambda, ouais, le fait qu'il y ait les cheveux coincés dans la douche, bon, moi ça m'a parlé parce que bon, voilà, tous les lundis je dois enlever parce que sinon c'est bouché, donc voilà.
Non, et puis il y a tous les moments où il a la cuisine, il y a les moments où il va récupérer une espèce de forme de guitare, il va lui fabriquer, ensuite ils vont fabriquer, ils se font des jeux de société, en gros c'est un peu le confinement, tu vois, encore une fois, où qu'ils ont, parce qu'ils se font forcément que tous
et
les
puis,
deux, donc c'est leur
ça bouillave aussi, non mais c'est vrai que le jeu n'hésite pas à aller là-dedans, tu vois, à mettre des scènes de sexe, alors on les voit pas vraiment, on les devine, il y a un peu une position genre, il tombe sur elle comme ça sur la table et ça y est, cut, on comprend que ça a fait
en fait on a les petits dialogues du genre tu vois, genre, on sent que c'est le regard
le
entendu,
teasing,
le petit wink-wink.
T'as un des artworks où ils sont en train de coucher ensemble.
Les nombreux artworks là qu'on voit dans le truc.
Pendant les temps de chargement, donc il y a les artworks où on voit, bah, encore une fois, des scènes du quotidien. Ouais. En fait, alors il y a quoi? Il y a, je sais pas, ils cuisinent.
Ouais, il y a quelqu'un qui est en train de cuisiner.
Et derrière, elle lui coupe les cheveux.
Oui,
ouais, tu vois.
Il y en a un, c'est elle qui a cuisiné, c'est dégueulasse. Parce que on va parler un petit peu après de la dynamique entre les persos. Je crois qu'il y en a une où, comme lui, il est botaniste et tout, il a une plante un peu pourrie, elle veut qu'elle le jette. Tu sens qu'elle est en mode ménage de printemps avec un sac poubelle et le pointe vers le sac poubelle, genre jette ta putain de plante, et lui il est non je veux pas, et il y en a une voilà,
on
ils
sait jamais
en train de
on peut
ensemble.
Les garder
c'est ça, et il y en a une où ils sont en train de coucher ensemble, donc oui il y a quand même ça, et c'est une des différences qu'il y a avec beaucoup de dating sims plus japonais quoi, en tout cas.
Ouais, tout à fait,
oui, c'est vrai que le jeu hésite pas de toute façon à aller dans les détails donc du quotidien et d'aborder la question de la relation d'une manière assez adulte en fait, c'est à dire que ils sont ensemble donc ils font l'amour et des fois ils s'engueulent, des fois c'est normal, ça fait partie du quotidien.
Toi, c'est pas genre Geralt, ça y est, il y a des fers. Allons-y.
Mais c'est exactement ça. Il y a pas le côté performatif,
exactement,
tu vois, du sexe.
Exactement.
Et ça, c'est tellement rare en fait dans un jeu vidéo, parce qu'en général, le sexe c'est souvent une récompense. Voilà, alors évidemment, l'exemple de Geralt est très bien choisi, puisque vous vous en souvenez, dans The Witcher 1, il collectionnait
les cartes
de toutes les nanas qu'il avait retournées sur la route.
Ça,
c'était chaud de ouf, quoi. Et là, tu dis non, en fait, ça se passe à peu près normalement. Il y a toute une scène, par exemple, où ils sont en train de faire du jeu de rôle, où ils se chauffent tous les deux et ils s'imaginent. Alors je dis pizza, etc. C'est encore une fois la première fois dans un jeu vidéo où j'entendais un personnage à voix haute dire le mot pénis. C'est, je crois vraiment dans un jeu vidéo, ouais, que j'avais jamais entendu dire ça avant. Et là, ça fait, c'est pas du tout dans une question de pornographie, tu vois. Ouais, c'est ouais, vraiment ouais, dans la
ouais,
discussion.
Puis c'est pas edgy, c'est pas ouais, juste pour faire du racolage. C'est juste, bah, en fait, ouais, c'est pour crédibiliser en fait ce couple.
Voilà, ils font leur petit jeu de rôle, tu vois, pour se chauffer un petit peu. Et puis bon, bah, ça permet de mettre du piment dans la relation.
Oui,
voilà,
tout simplement.
Sachant que là, on parle effectivement de relations bah, accomplies entre deux ouais, personnes et pas de la séduction par ouais, rapport ouais, à d'autres jeux. Après, il y a des gens, voilà, on peut adhérer ou pas à l'écriture qui, par contre, est très légère entre les deux. Alors je dis par contre, moi j'ai pas de, moi j'ai bien aimé finalement la relation entre les deux qui effectivement c'est très léger. Tu vois, entre les deux, il y a ouais, pas de, il y a pas de, de gros problèmes. Il y a juste une petite parenthèse. À un moment ils s'engueulent, ils sont séparés, mais pour vraiment revenir ensemble très fort. Je sais que ça a été reproché au jeu, mais là vraiment on est sur du purement subjectif à mes yeux.
En fait il y a une complicité très légère entre les deux. Tu vois qui, bon voilà, ils sont pas niais, mais voilà ils sont.
Bah, ils sont au début de la relation. Ouais, tu vois, il voilà, y a ce côté un petit peu, ils sont sur leur petit nuage.
C'est des jeunes adultes.
Ouais, moi, je trouve voilà, ça très bien parce que tu sais, ils flottent en fait quand ils se déplacent, ils se baladent ouais, ils, avec leurs petites bobettes là, dès qu'ils leur permettent de flotter à quelques centimètres. Je trouve que c'est marrant, tu vois, comme ouais, un peu comme une espèce de métaphore de bah, quand t'es amoureux, voilà, au tout début.
Ouais, ouais, il y a ce côté un peu de ça. Tu...
Et c'est une vision du couple en fait. Il y a des gens en couple, ils sont comme ça et voilà, c'est pas, il y a aucun jugement à faire. Et d'autres qui le sont absolument pas, qui sont beaucoup plus sérieux ou qui vont peut-être même être dans une relation un peu plus où ils vont scénario ou être taquin, tu vois, entre les deux, beaucoup plus vénère. Et voilà, il y a pas de jugement à avoir. Et c'est vrai que j'étais un petit peu déçu quand j'avais pu voir des gens le vraiment le mettre en tant que défaut, tu vois, genre ouais, ouais, comme si l'écriture était gamine, tu dis non, c'est un couple qui a ce genre de relation,
oui, qui a son fonctionnement,
et voilà,
ça,
ils ont
ouais,
choisi de ouais, faire ça
et ça
voilà,
c'était très intéressant de lire les tests justement du jeu, parce que c'était un truc, c'était soit c'était apprécié
ouais, 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 ouais,
soit c'était vraiment reproché, et les gens faisaient un gros focus là-dessus. C'est, je me rappelle du test de CPC où visiblement cette vision là d'une relation, ça leur allait pas du tout ouais, et donc du coup ça, c'est marrant parce que tu peux te permettre des petits jugements, tu vois, du genre bah, c'est quoi votre vision de l'amour, tu vois, genre ça vous plaît pas. Mais après c'est vraiment un jeu à ambiance. Moi je sais quand il est sorti c'était un bon mood, on était dans les confinements, les machins, etc. Donc ça fait du bien d'avoir ce genre de petite bulle.
Et puis aussi bah, ils ont une relation qui est très positive et quand même très saine aussi, parce que bah, Kay déjà, et c'est quelqu'un qui est extrêmement qui est assez sensible, qui est vraiment dans l'empathie, qui essaie toujours de désamorcer ouais, les choses, alors que Yu elle est un petit peu plus combative comme ça. Mais du coup bah, ça crée une relation où tu sais voilà, à chaque fois ça désamorce, ça monte jamais bien haut. Et c'est vrai que parfois dans la vie de couple, ça peut. Tout le monde n'a pas forcément cette personnalité qui va désamorcer, revenir en arrière, etc. Quoi.
Et justement, dans cette idée, un truc qu'on s'était dit, c'est que dans les représentations habituelles de la culture populaire, donc du cinéma, des séries, etc., les relations sont souvent basées sur de la toxicité et sur, on va dire, une
ou
domination
mal, en
ou
fait,
une relation de pouvoir ouais, entre les deux, où il y a en fait, il y a une espèce de déséquilibre entre les deux dans un couple, que ça soit hétéro ou homo, hein, d'ailleurs, mais il y a toujours cette espèce de différence, et donc il va falloir régler le conflit du couple, etc. Et on voit rarement en fait des couples dans des moments où tout se passe bien,
ouais, ouais,
tout simplement parce que c'est chiant.
Bah,
tu vois,
en fait, c'est, ouais,
en fait, je le dis,
il y a pas de structure narrative où enfin, il y a pas de, pour qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait des changements d'état, des arcs, des choses comme ça. C'est vrai que quand tout se passe bien, bah, il y a pas grand chose à
et
raconter.
Et je trouve ça super
vois,
intéressant, tu vois, parce que moi, ça me plaît beaucoup ouais, ce genre ouais, d'histoire-là. Au contraire, j'aime beaucoup le, alors j'aime pas les dating sims, mais j'aime beaucoup tout ce qui est manga tranche de vie où
ouais,
c'est juste des gens qui font leur petite vie, il y a rien, il se passe rien, tu vois, c'est leur quotidien, et moi j'adore lire ce genre de trucs, et du coup ça m'allait bien. Mais c'est vrai que quand on est dans une optique de narration, de rythme, tu ouais, vois, de courbe, d'intensité, etc., en fait on est habitué, on est vraiment, je trouve, en tant que joueur et joueuse, on a une espèce d'éducation à ce que il y ait un problème, on va avoir, tu vois, le moment, tu sais, il y a, tu sais, on l'avait appris ça à l'école, je sais plus comment ça s'appelle,
l'élément
perturbateur, à la fin il y a le climax, et justement dans le même idée on pourrait dire que c'est un jeu où il n'y a pas de combat de boss à la fin, ouais, tu vois, on s'attend à ce que Ozias il arrive avec son robot de l'espace comme ça et on fait un combat incroyable, pas du tout, il
ouais,
n'y a pas du tout ce moment là et du coup tu dis ah bah c'est surprenant en fait, ils ont fait des choix en termes de narration et du coup même de représentation du couple où comme ils sont dans une relation assez positive tous les deux, bah ça se passe bien, il y a pas le cliché du mec un peu toxique, un peu
ouais,
tu vois, un peu macho, quoi que ce soit, de la fille un peu passive, etc. Au niveau même de leur personnalité, c'est vrai qu'on voit que c'est un peu plus moderne, on va dire, dans la représentation. You voilà, c'est la mécano, elle est un peu impulsive, etc. Elle plaît beaucoup à Hugo.
Mais j'aime bien moi les meufs ont du caractère, tout simplement,
ouais,
un petit peu casse-bonbon comme ça, c'est bon. commencer ma cam.
Ok, lui, il est plus, c'est un nerd, hein, voilà, c'est le scientifique, il est avec ses plantes, ses champignons, il est un peu plus dans la discussion, il essaye quand même d'être vraiment dans la diplomatie. Il y a beaucoup de moments de dialogue, en fait, entre les deux, où on va pouvoir choisir un petit peu de donner plutôt l'ascendant à telle ou telle vision. Ça ne sert à rien donc, termes de gameplay, mais on peut faire un petit peu ces trucs-là. Et donc, le fait d'avoir fait des choix aussi radicaux, ça, c'est ça, je pense, qui donne ce côté à la fois très surprenant du jeu, et forcément, ça divise beaucoup.
Ouais. Mais il y a quand même un petit peu côté, je trouve, relationship goals, tu sais, qu'on voit parfois sur Twitter, tu vois, à un moment, ils ont des moments de complicité assez ultimes, et je trouve qu'ils sont bien réussis, qu'ils sont plutôt bien écrits, et tu sais, c'est vraiment relationship goals, tu vois, mon mec m'a écouté, merci, c'était ouais, vraiment bien.
Voilà, well, la barre est si haute.
La barre est si haute, ouais, c'est un peu... il faut le dire, c'est vrai. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a une vraie complicité. On peut revenir du coup un petit peu sur Pierre, du coup, Pierre Corbinet, qui est vraiment l'auteur sur le jeu. C'est notamment lui d'ailleurs apparemment qui a fait le choix justement de pas vouloir mettre de
boss.
Oui,
c'est ce qu'il m'avait dit. J'avais participé à différentes présentations donc, lors de l'add-on, là, un petit truc qui se passe en amont du Stunfest, où il expliquait justement que le choix de ne pas avoir de boss, c'était une envie. Tu vois, il avait envie de casser un petit peu la structure. L'équipe de The Game Bakers a dit allez, vas-y, on teste, on voit ce que ça donne. Alors, est-ce que c'est un bon ou un mauvais choix en fait? Bon, a posteriori, moi j'en sais rien. Ça m'a pas choqué, mais c'est vrai qu'on s'était préparé à cette idée-là. Ouais. On en avait parlé avec Max. Tu sais, il y a le moment où le jeu dit attention, c'est le point de non-retour. Ouais. Donc avec Max, on s'est dit pragmatisme, tu vois, on a chargé nos poches de potions, de buffs, de machin.
On dirait qu'on a joué ensemble alors que c'était chacun de notre côté.
Non, on l'a fait, oui, en plus, on l'a pas du tout fait au même moment. Hein, mais voilà, on a eu le même réflexe de se dire on se prépare à la grosse baston et en fait, il y en a pas, donc ça sert à rien.
Mais parce qu'on voit notre conditionnement en fait, parce que bon, ça emprunte pas mal au RPG, en tout cas à ce moment-là, t'as le côté boss final, t'as des stats et tout, et tu dis oui, j'ai fait tourner la machine à médicaments, à boost, à truc, parce que voilà, boss de fin, quoi. Et comme tu le dis, pas du tout.
Et en fait, non, c'est juste un petit parcours comme ça autour de ce grand flux rouge qu'il faut convertir, enfin casser pour casser le flow. Peut-être parler un petit peu des influences justement qu'ont façonné un petit peu cette écriture. Alors, il y a deux grosses références que Pierre y cite. D'abord, la BD Saga, donc le comics qui est là devant toi, Benoît, je l'ai ramené. Donc, un comics, je crois que ça a commencé à la fin des années 2000, voilà, je voudrais pas dire de bêtises, et donc qui est écrite par
Brian K. Vaughan et Fiona.
Et dessiné du coup par Fiona Staples. Et voilà, où il y a vraiment, c'est vraiment c'est aussi un couple comme ça qui fuit aussi. Alors eux, c'est un conflit entre leurs deux races, on va dire, et du coup, ils sont amoureux, donc ils fuient ce conflit, et à travers l'espace, ils vont essayer de se couper, et à la fois de maintenir leur couple, et puis de s'occuper de leur fille qui naît donc au tout début du tome 1. Et donc voilà, y a, vraiment, quand on a lu Saga et qu'on retrouve, qu'on joue à Haven, je trouve en plus vraiment le caractère de Yu me fait beaucoup penser à celui d'Alana dans sa manière très combative, comme ça elle est assez impulsive, c'est vraiment le feu un petit peu, et du coup vraiment on retrouve cette influence. Et puis il y a une autre BD suisse,
il y a une autre BD qui est Lupus ou Lupus, mais qui cite plus en rêve inconsciente pour le coup, que lui avait lu il y a un petit moment, pareil ça doit être dans les années 2000 je pense, et c'est encore un couple dans l'espace, et donc il y a aussi des scènes un petit peu intimistes, et il présente aussi en termes d'exposition, tu as présenté, c'est aussi elle je crois, non c'est lui le mécano par contre, mais voilà, il y a des moments un petit peu où, de transmission d'informations qui ressemblent un petit peu à certaines de Heaven, mais du coup Saga et Lupus sont les deux plus grosses refs, on a l'impression pour Heaven. Et ce qui était intéressant qu'il dit aussi, c'est que en fait il n'y a pas tant d'œuvres qui sont à la fois science-fiction et intimistes, qui vont vraiment parler de couple, où il y aura des moments de vie intime, et du coup il a plutôt pioché d'un côté dans la SF et de l'autre dans des œuvres plus intimistes, donc comme on l'a dit, hein, des trucs d'un choix qu'il cite, puisque c'est noté, le film Anna Take the Stairs ou Nights and Weekends par exemple,
je connais
absolument pas, mais voilà, qui a l'air d'être de films d'amour.
Si vous avez la ref mais en tout cas voilà, c'est vrai que ça fait un mélange assez unique, et encore plus a fortiori vraiment voilà, dans le jeu vidéo, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu, parce que bon, de la science-fiction on a deux trois trucs. Il y a un truc qui a été choisi d'ailleurs là par les gens du Discord, un truc avec des aliens qui kennent ensemble.
Ouais, voilà, là on pourra parler des relations amoureuses, vous verrez, c'est pas tout à fait la même chose, hein. C'est pas la même maturité, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, sur le côté histoire, en tout cas, ils ont fait des choix très radicaux. On l'a pas cité, mais Pierre Corbinet, c'est lui qui avait bossé aussi également sur Enterrement mon amour. Ça, c'est un jeu qu'on peut vous recommander si vous avez envie de déprimer un petit peu. ça se joue sur téléphone, et c'est pareil en termes d'écriture, c'est assez sympa. Mais à côté de l'écriture, bah, c'est pas que ça. Il y a aussi tout le côté gameplay. Et donc, bah, forcément, l'idée de The Game Bakers, c'était de chercher à proposer un gameplay de couple. Ouais. Et donc, de jouer vraiment sur cette émotion, de jouer de personnage. Et là, Aymeric Thoa, bon, bah, évidemment, il va citer soit Genova Chen pour la partie Journey, où il y a vraiment ce côté gameplay à la fois un peu fluide, mais aussi penser sur le côté bienveillant. Mmh. Et on pense évidemment à Ico, puisque ouais, bah, du coup, on joue avec Yorda, on lui tient la main en permanence. Et c'est vrai que le fait de se tenir la main dans Haven, ça fait partie des trucs, puisqu'on joue toujours les deux personnages ensemble.
Ouais, c'est ça qui est particulier, c'est que vraiment, c'est un jeu, en plus, on joue deux persos. Y a ce contrôle qui est un peu... On n'a pas l'habitude de jouer deux avatars en même temps, on peut switcher un petit peu. Et en fait, il est possible d'y jouer à deux. C'est-à-dire que oui, c'est quand même un jeu qui a été pensé pour être joué seul, mais par contre, il y a la possibilité de le jouer à deux. Donc ça, encore une fois, c'est un choix assez radical. Et en fait, bah, les gros piliers de gameplay du jeu sont vraiment pensés pour être expérimentés en couple. Donc il y a déjà bah, l'exploration. Là, tu parlais de journée, donc il y a ces passages vraiment où on glisse comme ça, et bah, voilà, on se tient la main. Alors il y en a quand même un qui prend le lead, entre guillemets, hein, on ouais, va choisir, on peut même interchanger si on ouais, veut, et il nous le rappelle d'ailleurs, oh, ça fait longtemps que j'ai pas pris le lead, allez, maintenant c'est moi qui
ouais,
qui
j'aime bien moi ces petits passages, on en avait parlé, c'est sympa, parce qu'en plus, il y a toujours une petite phrase genre, bah vas-y, à toi, ouais, c'est ton tour, etc. En fait, c'est comme nous, on choisit de jouer tel ou tel perso. Il n'y a pas de, il y a jamais encore voilà de moment où l'un va prendre ouais, l'ascendant sur l'autre. C'est juste ben vas-y c'est ton tour, vas-y c'est mon tour, etc. Ah,
et
quoi.
C'est ça. Nous, alors je crois qu'on a tous joué seul ouais, oui, à ce jeu. Et c'est vrai que moi j'ai pas du tout l'impression d'avoir incarné You ouais, plus que Kay parce que bah ouais je switchais pendant la glissade. Je pense que spontanément je mettais plus You d'abord parce que justement elle a ce caractère plutôt de bravoure. Mais quand ça demandait de switcher, je lui disais ouais, bah, allez, je le fais. Effectivement, ça fait un petit moment qu'on n'a pas switché, donc ça c'est assez réussi. Mais sinon, pour revenir à la glisse, on avait un petit quand même truc à dire dessus où c'est bon, c'est ce qu'on fait quand même la majorité du jeu pour le déplacement, en tout cas on se déplace comme ça. C'est le traversal, c'est le gameplay de déplacement, c'est ça. Et bon, on s'en lasse peut-être un petit peu au bout d'un moment, même si ça va introduire les espèces de petits fils bleus qui nous font monter ouais, les virages à 90 degrés. Bon, il y a un petit côté avec la glisse qui est peut-être pas si réactif que ça. Enfin, en tout cas, le côté virage, frein à main, tu vois, c'est pas un feeling que j'ai particulièrement apprécié, en tout cas, doigt en main. Et surtout, il n'y a pas de variation. En fait, ça change quasiment pas, contrairement à des jeux où tu vas pouvoir sprinter, dasher, rouler, sauter. Et t'as tendance à le faire, même si c'est pas mieux. Bah, comme je pense que le cerveau, il s'ennuie très vite dans ces trucs comme ça, tu le fais, en fait, juste pour varier un petit peu, pour changer un peu le plaisir. Là, il n'y a pas vraiment ces options-là.
On avait parlé, en plus, ils montraient, en fait, ils avaient sorti à GameCube une sorte de gros moodboard des références. Et à l'intérieur, il y avait Mario Kart. Et en fait, on en avait discuté pendant la préparation, je trouvais que c'était vraiment super intéressant, c'est que dans Mario Kart, ce qui est cool, c'est quand tu fais tes virages, tes petits drifts, hop, après tu peux récupérer un petit turbo. Ouais. Et en fait, bah, quand tu joues à Mario Kart et que tu sais faire ça, tu fais que ça littéralement tout le temps, parce que c'est hyper fun, alors que tu peux y passer 200 heures à Mario Kart, mais tu t'amuses tout le temps à faire ça. Et justement, en fait, ce que tu dis, c'est que dans Haven, dans ce déplacement, il est très fonctionnel, mais il n'a pas une profondeur ludique qui fait qu'on peut s'engager et, tu sais, essayer de faire des petits trucs pour essayer de gagner plus de vitesse, essayer de vraiment rentrer dans ton propre rythme. Tu dois te plier un peu à celui du jeu, et c'est vrai que c'est un peu plat à long terme. Et surtout, bon, moi je pense que c'est vraiment mon plus gros problème avec le jeu, c'est le level design donc de ces îles qui se ressemblent beaucoup les unes des autres. Déjà, il y en a vraiment beaucoup des îles.
Une trentaine, je pense.
Je pense que c'est un truc comme ça. Mais elles n'ont pas un relief qui est extrêmement intéressant. Même, il n'y en a pas une où je suis rentré en mode waouh, ça y est, cette île, elle est magnifique. Il n'y a pas ce côté, tu sais, un peu landmarks, comme on dit dans les jeux d'îles qui sont iconiques, que tu vas reconnaître tout de suite parce qu'elles ont une forme particulière ou quelque chose comme ça. C'est un peu Namek, c'est tout le temps un peu. Ça ressemble un peu tout le temps à Namek. Et c'est vrai qu'en termes de level design, je trouve qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de moments qui vont venir soutenir justement la glisse et lui donner des moments un petit peu de bravoure qu'il y avait par exemple dans Journey. Tu vois, Journey, en 2 heures, tu as des moments de glissade, de montée, où tu résistes, où c'est difficile d'avancer. Bref, il y a des vraies émotions qui passent par ce déplacement. Là, je trouve que Haven n'arrive pas à aller sur ce terrain-là, et notamment à cause de son level design qui est peut-être un petit peu trop... un petit peu trop le même tout le temps au fur et à mesure.
Je pense que ça tient aussi au game design qui est volontairement, à mon avis, dans cette idée de ne pas forcément trop proposer d'évolution.
Ouais. Trop de,
je pense
pas,
qu'il
pas
il voulait proposer un jeu un peu chill, un peu vraiment, voilà, on joue un couple, mais ça se passe bien. Mmh. Et justement, cette envie de ne peut-être pas raconter des choses dramatiques, ça se retrouve aussi dans le game design, parce que c'est vrai que on peut passer à côté, par exemple, de tout un tas de combats, ça, il n'y a pas de souci. Et finalement, moi, les moments de jeu dont je me souviens le plus, c'est les moments, en fait, où on n'est pas forcément en train d'explorer, mais on va être tombé sur une bestiole qu'on va pouvoir caresser, on va être tombé sur le moment de la plage, encore une fois, je pense qu'il y a dû marquer pas mal de gens qui ont pu le faire. Et donc, c'est vrai que d'avoir fait ce choix, d'avoir un gameplay qui, sur la durée, ne va pas forcément se renouveler, j'ai peur que ça soit un peu contre-intuitif, tu sais, par rapport à l'intention de départ de faire ressentir les émotions. C'est vrai que moi, au début, j'étais là, bah oui, c'est cool, on les joue tous les deux. C'est vrai que sur la toute fin, bon, voilà, on va sur une île parce qu'il faut aller sur une île et parce qu'il faut faire avancer l'histoire, mais on prend pas forcément un plaisir.
Il y a pas, justement, on ne parcourt pas différentes strates d'émotions. Je trouve que c'est un jeu qui, voilà, nous laisse quand même dans un truc un peu lancinant, mais on n'arrive pas à passer par, voilà, j'en sais rien, pas la colère, mais tu vois, vraiment des émotions, des teintes émotionnelles.
Il y a pas de réel danger. Tu sais, ils le disent au début, il y a un petit warning qui dit, c'est un jeu qui est facile. Si jamais c'est trop difficile pour vous malgré tout, il y a encore un mode facile un peu plus.
Ouais, mais tu vois, Journey arrive, je trouve, à nous plonger dans des états émotionnels différents. Parfois, tu sais pas où t'es, d'avoir un peu de peur. Parfois, quand tu virevoles comme ça, il y a des émotions beaucoup plus positives comme ça qui viennent manette en main. Ouais. Je trouve que Journey, c'est une des grosses forces de Journey aussi. Hein, mais voilà, je trouve que le jeu n'arrive pas à nous faire passer par ces trucs-là. Et c'est vrai aussi même avec le système de combat malgré tout qui est qui a du mal à évoluer. En fait, les outils que tu as au début du jeu, c'est quasiment pur jus, les mêmes choses que tu feras au bout de 10 heures.
La seule chose qui change, c'est qu'on peut donc charger, en fait. Donc le système de combat, c'est vraiment un système de combat où on joue encore une fois les deux personnages.
Ouais, tout à fait, avec stick.
Voilà, chaque stick contrôle un perso. On va diriger, en fait, par exemple, tous les deux vers le haut, ça fait qu'ils attaquent tous les deux en même temps. Un vers le haut, un vers le bas, il y en a un qui va protéger l'autre pendant qu'il charge son attaque. Donc ça, pour le coup, je trouve qu'en termes de gameplay, le fait qu'on les incarne tous les deux en même temps, ça marche bien. On sent bien ce côté, on s'aide,
en plus
on s'entretient.
C'est en temps réel, donc il y a quand même une petite dimension.
Il y a une côté coop, il faut charger
à
ensemble,
se coordonner les deux mains en même temps, malgré
se coordonner même d'ailleurs.
Se coordonner, tu vois, donc c'est encore pire. Donc tu vois, comme quoi c'était pas si facile que ça. Mais après, c'est vrai qu'une fois que tu as pris le rythme, en fait, les quatre attaques que tu as au début, tu les as à la fin.
C'est ça.
Il y a une petite variation qui est apportée par le bestiaire à certains moments. Mmh. Tu as des ennemis plus forts que d'autres, tu as l'espèce de grand oiseau, je crois qu'il lève son cou et qui va finir par donner un coup. Et donc là, tu peux essayer d'optimiser ton combat avec un qui défend pendant que l'autre va taper. Il faut trouver des points faibles aussi. Est-ce que c'est plutôt un coup de pied, plutôt
le blast,
blast ou le coup de pied. Mmh. Voilà, trouver un peu lequel va faire plus de dégâts. Ou alors il y a des ennemis qu'il faut, je sais plus comment ils appellent ça, est-ce que c'est purifié ou en tout cas
pacifié. Oui, parce qu'on les tue pas, les animaux, à la fin.
Oui, voilà,
on fait ça.
Voilà, on les pacifie. Mais du coup, c'est une action à faire avant qu'ils redeviennent méchants. Ouais. Et parfois, tu as des tactiques. Est-ce que je le pacifie maintenant ou est-ce que pendant qu'il est KO, j'en profite pour défoncer un qui me fait très mal. Enfin bref, il y a un petit peu de variation importée par le bestiaire, mais sur la durée pas tant que ça non plus. Donc c'est vrai que les combats, on a un petit peu encore une fois sur la durée,
ça se renouvelle assez peu. Encore une fois, voilà, il y a très peu de challenge et tout, donc le jeu encore en fait vraiment sur ces deux piliers là que sont l'exploration et les combats, moi le jeu il a eu du mal à m'engager, tu vois. On était sur un truc où ça se joue, mais j'ai eu du mal à m'impliquer vraiment émotionnellement ou cognitivement dans le truc.
C'est peut-être parce que il y a peut-être un déséquilibre avec l'exploration qui prend un petit peu trop de place, de temps, parce que comme tu as dit, autant tu peux avoir la scène de la plage ou certains dialogues ou certains camps, ils vont discuter, tu vois, pendant qu'ils mangent.
Oui, quand tu fais le pique-nique, c'est ça.
Voilà, il y a tes moments où tu vas choisir telle recette, tu vas découvrir aussi ce qu'a fait ta recette, ton plat, ce qui donne plutôt de la vie, du mana ou quoi. Et il y a les objets que tu trouves, tu peux trouver des objets que tu vas ramener au nid, tu vois,
les morceaux de vaisseau là.
Alors il y a deux trucs, il y a les morceaux de vaisseau.
Il y a tous les petits artefacts rigolos, tu vois, des BD. Il devait y avoir
des petits jouets,
des
instruments de musique,
un truc qui fait du bruit tout le temps, une espèce de figurine là.
Et ça, c'est pas mal parce que, et on va y venir, ça fait la transition parce que les bouts de vaisseau, donc ça c'est obligatoire pour progresser, mais tu peux trouver les objets que tu as ramenés au nid, et c'est au nid que là tu vas vivre en fait le gros des moments intimistes de partage. On va enchaîner là-dessus, mais c'était pour dire que l'exploration prend peut-être trop de place. Il y a trop de moments peut-être où tu vas te casser la tête, comment est-ce que je monte, c'est pas ce fil bleu, je suis tombé, et
c'est surtout que les enjeux de chaque île sont, il faut nettoyer la rouille, il faut récupérer les espèces de cristaux de rouille qui vont nous permettre de crafter des trucs plus tard, mais bon, il y a un petit côté un peu, c'est du coloriage quoi, donc c'est pas c'est vrai qu'en termes de gameplay, c'est pas ultra intéressant à faire au bout d'un moment. Je sais qu'au début je m'étais dit, je nettoie une île, ça je l'ai nettoyé à 100%, je suis content. à la moitié du jeu, j'ai arrêté de m'embêter. Ouais, en fait, je me suis dit, bah non, moi, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est les moments justement d'histoire. Mmh. Donc, par contre, j'explorais à fond parce que ça, j'avais envie de découvrir ces petits trucs-là. Parce que, comme tu l'as dit, les récompenses, c'est que bah, si je trouve un objet dans une ruine, je vais le ramener à la maison et là, on va pouvoir en profiter.
Ils avaient peut-être peur que le jeu dure que 5-6 heures,
ouais,
tu vois.
Peut-être, ouais. Moi, je voudrais pas m'avancer, mais je le sens, tu vois. Si j'avais dû faire le choix Hugo Corp, c'est on cut les enfants, on enlève des îles ouais. et on fait des îles qui soient peut-être un peu plus marquantes pour que ça dure, ouais, 6-7 heures. Et pour moi, ça aurait été vraiment très bien. Mais bon, encore une fois, on connaît les attentes des
c'est
joueurs.
C'est très dur.
Et
quand,
voilà,
on est, quand on est dans le jus, c'est encore plus compliqué parce que la peur du vide, c'est un truc qui doit traumatiser. Ouais. Ça doit réveiller des développeurs et des développeuses de la nuit, à mon avis, de se dire est-ce qu'on a fait,
est-ce qu'on a assez,
est-ce qu'on a assez, est-ce qu'on en a trop fait, etc. Enfin, j'ose pas imaginer les angoisses que ça provoque, quoi.
Mais du coup, voilà, comme on l'a dit, il y a ces moments au nid où là on va pouvoir rentrer, ramener la pièce du vaisseau qui va d'ailleurs arborer une nouvelle pièce, un nouveau truc où elle va pouvoir bosser sur quelque chose. On aura peut-être notre petit gruik qui sera là et il y aura des discussions débloquées. On va pouvoir cuisiner, on va pouvoir se soigner, faire des médicaments. Et en fait, ça, c'est un peu un jeu dans le jeu en fait, parce que la caméra change déjà. On a une caméra libre un peu en mode drone et en fonction de dans quelle pièce on se situe, bah, ils vont apparaître en fait.
Soit dans le lit, soit dans le canapé, dans un truc comme ça. Et en fait, quand on les rejoint, bah, si on déclenche, si on interagit avec eux là où ils sont, ça va créer une petite scénette.
Et là, paradoxalement, c'est le moment où le gameplay n'est plus un gameplay de couple. Parce qu'en fait, on ne joue plus les persos, on joue une caméra.
Ouais,
et on est
un peu voyeuse,
on est un peu le voyeuriste de base, c'est ça, qui les observe pendant leur relation. Et paradoxalement, c'est là où le jeu, je trouve, qui brille le plus. Parce que tous ces petits moments qu'on va débloquer, c'est ça, en fait, qui marche bien et qui donne cette crédibilité à leur relation de couple. Parce que c'est cool. C'est des petits moments où ils ne se posent pas des grandes questions. Il n'y a pas des dialogues de philosophie ou quoi que ce soit. Ça arrive des fois qu'ils se posent des questions un peu existentielles sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire. Si jamais ils nous attrapent, etc. Mais le plus souvent, ben, ils passent le temps. Tu vois, moi j'ai tous les délires où tu sais où ils fabriquent des petites figurines et ils jouent avec Muffin et avec je sais plus quoi. Ah, et oui. Ils font là, ils font leurs petits jeux comme ça parce qu'ils passent le temps, quoi, tout simplement.
Et alors il y a quand même un petit gameplay parce qu'une fois que la scène a été déclenchée, on contrôle plus la caméra, c'est du dialogue façon visual novel et on choisit parfois des lignes de dialogue et comme quand on glisse et qu'on a le choix entre les deux persos, bah il y a des moments où on parle pour You et il y a des moments où on parle pour Kay. Et encore une fois, ça renforce cette idée que bah tu joues pas un des deux persos mais tu joues vraiment les deux, quoi.
Sachant quand même tous ces moments-là qu'on passe à la maison, ils vont venir nourrir et soutenir le combat parce qu'on peut créer des petites préparations. Il y a aussi ces moments quand on a assez d'expérience, bah, on va boire un coup de tequila et comme chacun sait, ça te permet de gagner du
un
niveau et de gagner des stats supplémentaires.
Ne faites pas ça chez vous.
Non, ça ne marche pas.
Avec
attention,
modération.
Attention,
mais
attention.
Encore une fois, c'est une vision du couple.
Oui,
tu vois,
voilà,
c'est picoler à deux, oui, il n'y a pas de souci.
La France, monsieur. Oui, c'est la France. Mais
encore une fois, tu vois, c'est une vision du couple et c'est là on en revient un petit peu à ce qu'on disait avant. Bon, bah c'est du gameplay de couple, se balader, voir des scènes, choisir des dialogues, avoir eu en récompense. Alors cette fois-ci, parce qu'on disait que souvent c'était des jeux, c'était la séduction et que la récompense c'était d'être avec souvent la femme ou le personnage d'une façon générale. Et en fait là, bah ils sont déjà en couple. T'as déjà gagné. Ouais. Et du coup, ce que tu gagnes, c'est des moments de couple en fait. Et donc c'est là que c'est intéressant. C'est là que le jeu en fait il réussit. C'est bien ces moments, quoi.
Et donc comme tu l'as dit, on gagne ces petits moments de couple et ça participe à ce qu'on avait dit un peu plus tôt sur le côté les choix d'écriture où on n'est pas dans une relation toxique, on est plutôt dans un truc très bienveillant. Et d'ailleurs l'intégralité du jeu il est comme ça, hein. Moi j'avais parlé d'un petit cocon ou d'une petite bulle, tu vois, dans ma vidéo, parce que c'est vrai que on ne tue pas les animaux. On a la petite bestiole, la gruik, ou même l'espèce de patate douce qui se balade dehors. Enfin, tu vois, c'est des animaux qui vont faire partie un petit peu de notre quotidien, c'est tout sympa. Quand on veut récupérer de la vie, on va se prendre dans les bras, on va faire un câlin. Dès qu'on les laisse tous les deux pendant 4 secondes, ils vont se tenir la main, ils vont s'enlacer, des fois ils vont s'attraper. Bah ouais, après tout, il n'y a pas de raison.
Parce que voilà, on voit pas.
Et il y a tout ce côté en fait qui va nourrir cette idée qu'on est effectivement dans une petite bulle, un truc très chill. Et qui est peut-être paradoxalement pas ce qu'on attend en fait d'un jeu vidéo, parce qu'on a justement été conditionné, je trouvais que le terme était bien choisi, par des impératifs d'action, des impératifs de drame, tu vois, il faut qu'il se passe des trucs, il faut qu'il se passe des trucs
intenses
pour qu'on ressente des émotions, et quand ça se passe bien, que c'est positif, ça peut éventuellement laisser Hugo de côté, voilà, il faut le dire, il faut balancer.
C'est moi qu'on balance.
Non mais parce que moi justement ça m'a plu en fait, tu vois, ça a changé de ce que j'avais l'habitude d'avoir dans ce genre de jeu, et ça m'a fait ça m'a fait du bien, tu vois, bêtement. C'était, mais encore une fois, c'est une question de mood, c'est-à-dire que c'est arrivé au bon moment, confinement, les machins, etc. Moi, un jeu où j'ai pas à réfléchir à sauver le monde ou quoi, mais juste voir leur petite vie de couple et les voir jouer de la guitare ou picoler, je trouvais ça très sympa.
Ouais, ouais, moi j'ai eu du mal à rentrer dans ce truc-là, mais je pense encore une fois c'est plus quand même une question de gameplay, l'exploration et tout. Ouais. Je pense que si ça c'était beaucoup plus léger ou si ça avait, j'avais pris du plaisir, je sais pas, à glisser, à faire des trucs, je pense que j'aurais pu vraiment profiter du jeu différemment. Donc encore une fois, c'est ça aussi, c'est que c'est un jeu qui se base sur plusieurs piliers, tu vois, il essaie quand même d'être plusieurs choses à la fois, et tu te dis, bon bah voilà, est-ce que ça valait le coup d'essayer d'être justement sur ces trois aspects-là? Peut-être pas, tu vois, même si encore une fois je trouve que le jeu, en fait, dans l'intention, je le trouve assez cohérent. Je trouve que quand même ça se nourrit bien l'ensemble.
Oui, ça marche bien,
mais
ouais.
Après, je trouve que sur l'exécution, notamment sur les deux vraiment piliers de gameplay, je trouve que ça manque un petit peu d'audace.
Il faut dire
quoi.
Que si ça avait été uniquement, tu vois, un jeu qui se passait dans le nid, par exemple,
ça aurait été
extrêmement
flippant
pour eux. Ouais, je pense à marketer encore bien plus bien parce sûr. Que là, on était vraiment dans du visual novel pur et dur ou du jeu purement narratif, et c'est plus compliqué à vendre qu'un jeu où il y a de l'action, où il y a de la 3D, du temps réel, des combats, etc.
Non, et puis ils l'ont pas trouvé tout de suite leur jeu, tu vois. Ouais. Maxime, on racontait au début, c'était jeu d'aventure, après c'est redevenu point and click, puis après ils ont eu rentrée d'argent, donc ils ont essayé de refaire des choses. Donc on voit que c'est un jeu qui s'est cherché un petit peu. Est-ce qu'il s'est totalement trouvé? Je ne sais pas, mais bon, au final ça va, il y a quand même le résultat est là.
Ouais, en fait, je trouve que compte tenu du manque de références, de vraiment de phare, tu vois, pour vraiment savoir quoi faire, je trouve qu'ils s'en sont quand même très bien tirés globalement. C'est une prise de risque, hein. Il y avait beaucoup de choses à défricher. Il en est sorti un jeu. Moi, j'ai bien aimé, tu vois, justement, les tranches de vie, tu vois, les dialogues. Et globalement, j'ai pas non plus. Comme dit, c'était plus sur la longueur que j'ai eu des soucis. Mais après, que ce soit la DA, les combats et tout, il y avait quand même des choses cool. Plus un souci de rythme, je pense.
On a pas parlé de la musique, mais c'est pareil, tu vois. La BO, elle est top. Donc voilà, écoutez-la, tout simplement. Et au-delà de la musique, cette idée de défricher, ça c'est intéressant parce que c'est vrai que comme c'est un jeu qui aborde une thématique qui est rarement abordée dans le jeu vidéo, avec un angle qui pour le coup n'est presque jamais abordé dans les jeux vidéo. Alors, quand on dit ça, j'imagine qu'il doit y avoir 3000 jeux sur itch.io qui sont déjà dans ces délires-là. On va dire des jeux un peu plus mainstream, comme on peut en parler nous dans Fin du Game. C'est vrai que c'est un sujet qui est rarement abordé. Donc le fait de faire ça, moi j'ai trouvé cette prise de risque effectivement super intéressante, et surtout je me dis c'est peut-être l'occasion de se dire ça peut marcher, il y a encore des choses à faire, hein. Ils n'ont pas réussi à taper pile poil comme il faut dès le premier essai. Est-ce que c'est grave? Non, mais ça veut peut-être ouvrir la voie pour d'autres gens, parce que je sais pas s'ils vont du coup continuer dans cette voie là pour la suite de leur projet. Est-ce qu'ils vont revenir plutôt vers du Fury-like ou quoi, j'en sais rien, mais si jamais ils restent dans le délire de Haven, je pense ils ont déjà, tu vois, défini quelques petits trucs sur le côté. Des fois ça marche bien, mais il faudrait peut-être un peu plus d'intensité dans le gameplay, des situations avec plus d'enjeux qui engagent plus les gens d'un point de vue émotionnel, mais par contre garder le côté tranche de vie et tout, qui ça pour le coup est très très bien.
Et là où ils sont assez réalistes de mémoire, je crois que c'est peut-être Aymeric Toa qui disait que de toute façon c'était un jeu à faire entre deux triple A, un jeu plutôt chill, tu vois, il n'y avait pas une ambition démesurée de devenir une nouvelle référence, de devenir le jeu d'amour qui va tout péter. Après, là où notre avis il est peut-être aussi un peu incomplet, c'est vrai qu'on l'a chacun fait tout seul, en fait. Avec quelqu'un, il y a d'autres gens qui ont joué en couple, du coup ça apporte aussi quelque chose de différent, parce que là vraiment jouer UK, être en combat, se coordonner, tu vois, le fait de se coordonner avec quelqu'un d'autre, ça crée aussi des moments de jeu qui sont assez différents,
qui est différente, c'est sûr.
Et donc c'est un jeu qui a pu créer des moments dans certains couples aussi, quoi.
Après, comment ça se passe sur justement l'exploration et les moments justement de petits couples comme ça, tu vois, je sais pas si ça marche exactement.
Si vous vous êtes séparés à cause de Haven, envoyez nous un message.
C'est plutôt Overcooked, tu vois.
C'est plutôt
celui-ci.
Mais à l'inverse, si ça vous a permis de vous rapprocher, c'est la merveilleuse transition pour rejoindre notre club de lecture.
Ah oui, pardon, je croyais qu'on allait partir sur le Patreon.
Non. Tu sais, t'entends transition, il y a son cerveau, il réfléchit, Patreon. Non, je parlais du Discord, puisque du coup, en fait, là, comme d'habitude, il y a des gens qui ont fait le jeu une fois qu'on avait annoncé qu'on allait le faire, et du coup, ça a permis de lire un petit peu les expériences de chacun, chacune. Il y en a qui l'ont fait ensemble, il y en a qui l'ont fait à plusieurs, donc du coup, ça donne aussi des retours un peu différents de ce que nous, on a pu vous apporter dans l'émission.
Non, et encore une fois, je pense que pourquoi on l'a choisi aussi, c'était à la fois pour ce virage, pour voir, parce que vraiment, pour un studio, c'est extrêmement rare de voir un virage comme ça. Et il n'est pas totalement, complètement amorcé. Il n'a pas les flammes violettes là dans Mario Kart. Mais quand même, il y a vraiment un projet qui est cohérent et qui était intéressant à traiter sur une thématique qui est en plus assez inédite. Je crois qu'on a fait le tour. Vous pouvez donc nous rejoindre sur Patreon. Ah. Allez, j'en fais pas plus. Je vous embête pas plus avec ça. Vous pouvez aussi retrouver les livres de Sœur d'édition eh bien, sur leur site, tout simplement. Notamment le livre hein, sur les consoles de jeux alternatives. Donc voilà, ça peut être... C'est une idée cadeau. Voilà, moi je dis c'est une idée cadeau. Voilà, vous voulez faire plaisir à un cousin qui aime le jeu vidéo eh bien, hop, vous allez là-dessus. Nous, on se retrouve dans deux semaines. On va parler aussi glissade, il me semble.
Oui.
C'est dans deux semaines.
Oui.
De SF aussi.
De SF aussi, voilà.
Et d'amour.
Et d'amour, mais non, peut-être
d'inspiration
pas
japonaise, un peu. Ouais.
Effectivement, c'est vrai, mais il y a un fil comme ça qui se tisse hein, dans Fun Game, c'est vraiment fantastique. Voilà, donc dans deux semaines, vous pouvez tout savoir sur le Discord. Nous, on vous remercie de nous avoir écoutés. Salut.
Ciao.